Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui une médecine plus préventive, plus prédictive, plus participative et surtout plus personnalisée, cette fameuse médecine des 4 P. Dans le cas du cancer, une nouvelle arme thérapeutique est en train d'émerger, c'est la Theranostic, contraction de thérapie et de diagnostic. Cette technique utilise l'imagerie pour étudier le comportement spécifique d'une tumeur, cartographier les cellules cancéreuses dans le corps et les traiter de manière ciblée. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'avoir des spécialistes dans ce domaine sur le plateau de Check-up Santé. Zena Ouimana, qui est directrice de la radiopharmacie à l'hôpital universitaire de Bruxelles, Institut Jules Bourdet. Laurence Comte, qui est une habituée de Check-up Santé, qui est directrice générale de GE Healthcare France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone.
Bonjour.
Et Frédéric Courbon, chef du département d'imagerie médicale à l'Institut universitaire de cancer de Toulouse Oncopole. Ouf, je l'ai dit.
Bravo.
Voilà, Check-up Santé, c'est parti. Zena Ouimana, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Courbon, bonjour.
Bonjour.
Laurence Contarassus, bonjour.
Bonjour.
Alors, Frédéric Courbon, vous êtes professeur de médecine nucléaire et biophysique. Vous êtes chef du département d'imagerie médicale à l'Oncopole de Toulouse. Vous travaillez aussi sur d'autres voies de recherche métabolisme du cholestérol, pas mal d'innovations thérapeutiques. Une première définition de la médecine nucléaire.
Alors d'abord, la médecine nucléaire est une spécialité médicale, comme d'autres spécialités.
Vous êtes médecin d'ailleurs.
Oui, je suis médecin. C'est une spécialité médicale qui utilise des médicaments radioactifs dont ma collègue vous parlera beaucoup mieux que moi. Ces médicaments radioactifs servent soit à faire du diagnostic, soit à faire du traitement, ce qui change c'est le type d'isotope qu'ils transportent. Et des fois, on utilise le même médicament à la fois pour voir et à la fois pour traiter ce qu'on a vu. Mmh. Et je pense que c'est ce que vous avez appelé la notion de theranostic en fait.
Donc Zena Ouimana, la médecine nucléaire, c'est bien ça, ce sont des isotopes qui vont servir à diagnostiquer et à traiter.
Exactement, donc on utilise ce qu'on appelle des radiopharmaceutiques, et les radiopharmaceutiques ce sont des molécules qui vont être utilisées comme vecteurs pour amener la radioactivité au niveau de nos cellules, et celles-ci peuvent être soit radiomarquées, on met un drapeau radioactif au-dessus pour du diagnostic et pour de la thérapie. Et l'idée derrière cette imagerie, c'est d'être spécifique à une pathologie, à une fonction d'un organe. Et pour la thérapie, un peu comme un cheval de Troie, ramener la radioactivité pour traiter les cellules cancéreuses.
Donc, ouais, vous dites cheval de Troie. Donc, en fait, vous ciblez donc des isotopes qui vont cibler un organe ou une tumeur, c'est ça qui
Ce sont
cibler.
Des molécules. On utilise des molécules qui vont cibler l'organe ou les tumeurs. Et on va rajouter au-dessus de ces molécules un radioisotope.
Alors, Frédéric Courbon, donc on en vient au theranostic. Theranostic, contraction, donc je disais en intro, de thérapie et diagnostic.
Absolument. La molécule, on va dire que c'est le missile.
C'est pas si nouveau que ça, la theranostic, c'est pas si nouveau que ça.
Oui, en fait, c'est un concept assez ancien qui consiste à essayer de voir une maladie, et puis si on est capable de la voir, de traiter spécifiquement ce qu'on fait dessus. C'est une démarche que l'on retrouve également en radiologie. On va parler du cancer de la prostate tout à l'heure, mais voir une tumeur en IRM ou en échographie, et ensuite appliquer un traitement physique sur ce que l'on voit, c'est aussi du theranostic. La médecine nucléaire, elle va utiliser une sorte de missile qu'on va injecter par voie intraveineuse, et ce missile va transporter, selon ce qu'on veut, soit un agent isotopique qui fait l'imagerie, soit un agent isotopique qui tue les cellules. Normalement, l'objectif, c'est de traiter ce que l'on voit, voilà, et de voir en même temps ce que l'on traite, c'est-à-dire voir si ce qu'on fait est efficace ou pas efficace. Et c'est un vieux concept, mais qui a radicalement transformé le paysage et qui continue à le transformer avec un succès thérapeutique dans la prise en charge des tumeurs endocrines, qui sont des tumeurs assez rares de l'adulte, et très prochainement dans la prise en charge des cancers de la prostate.
On va en reparler. Laurence Contarassus, vous dirigez donc GE Healthcare. Évidemment, il n'y a pas de theranostic sans appareil.
Non, et alors, j'allais dire qu'on est aussi, en fait, un peu des experts du theranostic. Pourquoi ? Parce qu'on est les seuls à travailler sur toute la chaîne. La chaîne, c'est quoi ? On va aller du cyclotron pour la production, justement. des radiotraceurs. Il nous faut évidemment aussi le matériel. Donc on a une entité pharmaceutique et on va avoir toute l'imagerie diagnostique. Donc ce que vous connaissez, les PET-CT, les PET-IRM. Mmh. Et gardez aussi en tête que tout ça, c'est de ce qu'on appelle de la technologie numérique. Et puis après on va aller jusqu'au traitement avec les gamma caméras aussi dont on parle et puis la scintigraphie. Nous sommes aussi en fait les seuls à avoir ce portfolio numérique et ça nous permet de pouvoir traiter justement ces images beaucoup plus facilement. Il faut garder en tête en fait qu'on avance en fait petites étapes par petites étapes, ce qui nous permet en fait de travailler sur l'ensemble du parcours théranostique. Peut-être quelques chiffres à retenir, donc je les ai notés. On investit aujourd'hui 55 millions d'euros dans cette médecine nucléaire. Elle ne l'a pas dit, mais certains patients disaient c'est la médecine qui fait boum. Non, en effet, c'est la médecine qui fait du théranostique. On a plus de 10 000 équipements installés en médecine nucléaire de par le monde. On a mis sur le marché plus de 15 innovations dans les 10 dernières années. Et en France, on a plus de 15 cyclotrons installés qui ne sont pas vendus par nous en direct pour des raisons historiques, contrairement au reste du monde. On fabrique les radiotraceurs en Angleterre, on fabrique les cyclotrons à Uppsala en Suède, et même si on ne fabrique pas, bien évidemment, ce genre d'équipement en France, on en fabrique d'autres, et on reviendra après sur le fait que c'est aussi très important.
Et donc vous êtes présent, j'imagine, dans une grosse structure hospitalière?
Alors on
j'imagine
est
qu'un cabinet de radiologie privé va pas s'équiper.
Ouais. C'est clairement des équipements qu'on va trouver dans des structures en effet très importantes comme à Toulouse, comme à Jules Bordet et dans d'autres pays bien évidemment aussi, principalement dans le public et dans quelques centres privés de taille importante.
Oui. Zena, vous n'allez pas me contredire, la Belgique est assez présente sur cette théranostique.
Exactement, oui. Ça fait depuis longtemps que la Belgique est assez précurseur au niveau de ce domaine théranostique. On a beaucoup d'avantages d'avoir sur le terrain toute la filière du début de la production de ces radioisotopes qui peuvent être produits également par cyclotron, mais aussi par réacteurs nucléaires. Il faut également des réacteurs nucléaires pour les parties thérapeutiques. Et toute la filière logistique et d'approvisionnement de ces radiotraceurs.
Alors, pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent, c'est important de leur dire que c'est sans danger, évidemment.
Le bénéfice.
Parce que quand on pense à radioactif.
Oui, bien sûr. Donc, justement, comme le disait tout à l'heure.
Rien à voir avec Tchernobyl.
Souvent, les gens ont peur quand ils entendent médecine nucléaire. Et je me souviens, j'avais fait un voyage à l'étranger, aux États-Unis, il y a quelques années. Et à la douane, justement, on m'a dit, c'est la médecine qui fait boum. Et non, absolument pas. Ce n'est pas la médecine qui fait boum. C'est une spécialité médicale qui va apporter, pour aider dans le diagnostic, mais également pour la prise en charge totale, ainsi que le traitement.
Oui, parce que le rayonnement radioactif, il est très court.
Oui, alors quand on utilise cette approche pour le diagnostic, la quantité d'irradiation que l'on donne aux malades, on la connaît déjà lorsqu'on fait un scanner, on est à peu près dans le même ordre. Quand on utilise ce missile, mais cette fois-ci pour tuer de la maladie, là on est sur un médicament qui tue des cellules, et donc là pour le coup, au niveau des cellules, l'objectif c'est que le missile fasse boum dans la cellule tumorale ou son environnement. Hein, d'accord ? Donc on a une approche qui est une approche peu irradiante, diagnostic classique en termes d'irradiation, et une approche de destruction cellulaire qu'on connaît déjà dans le monde de la radiothérapie externe, par exemple.
Oui, mais ce sont des isotopes radioactifs qui vont travailler de façon très courte dans le temps.
Alors oui, l'intérêt particulièrement pour la thérapie, et c'est une des stratégies intéressantes pour la radiothérapie métabolique, la radiothérapie interne vectorisée, c'est que le fait d'avoir un missile qui amène la radioactivité dans la tumeur fait que le rayonnement émis par cet isotope est très court, donc la dose d'irradiation est ponctuellement déversée, et donc ça protège les autres tissus. On n'a pas les effets secondaires que l'on rencontre en radiothérapie externe, où les tissus sont traversés par des rayons photoniques très énergétiques. Là, on a une distribution de dose qui est dans la tumeur.
Oui, dans la, voilà. Alors justement, c'est évidemment ça marche pour l'oncologie, mais pas pour tous les cancers.
Non, pour l'instant, on parle de théragnostic, donc ça marche pour les cancers pour lesquels on a identifié une cible qui est spécifique, c'est-à-dire qu'on va trouver plus souvent exprimé au niveau d'une tumeur qu'au niveau du tissu sain, parce que sinon le missile va aussi irradier le tissu sain, il y en a une partie qui se fait irradier. Donc ça marche pour les tumeurs sur lesquelles on a identifié une cible, majoritairement présente pour les tumeurs et pour lequel la recherche en radiopharmacie nous permet de disposer de ces missiles qui vont être capables d'aller jusqu'à la tumeur. Donc, pour l'instant, ça concerne les tumeurs endocrines et des variétés de tumeurs endocrines. Alors, le cancer de la thyroïde, historiquement, les tumeurs endocrines digestives, des tumeurs assez rares mais agressives, et on a une cible d'intérêt pour le cancer de la prostate. On a identifié une cible qu'on connaît un peu parce que si vous connaissez le mot de PSA,
bien sûr.
Il y a le PSA membranaire. Mmh. Donc, c'est ça la cible. Et on a des médicaments qui vont aller fixer ce PSA exprimé par les cellules tumorales au niveau de leur membrane.
PSA, c'est ce qu'on dose dans la prise de
sang. Alors, le PSA, absolument, c'est ce qu'on dose. Et le PSMA membranaire, c'est celui qui est sur la tumeur.
Exactement. Et sur le pancréas, hélas, pas encore.
Alors, c'est tous les enjeux, hein, c'est d'être capable d'avoir que la recherche nous donne des cibles d'intérêt et que la recherche en chimie, en radiochimie, nous permette de traiter efficacement ces vrais tueurs.
Laurence, donc, ce qui implique que vous travaillez de concert avec les ingénieurs, avec les médecins, avec les cliniciens, c'est ça ?
Ouais, alors la collaboration,
c'est un travail d'équipe.
La collaboration, elle est indispensable en fait. Comme je le disais, hein, c'est étape par étape. On a évidemment des collaborations très fortes. Hein, c'est pour ça qu'on a ces deux acteurs avec nous. Historiquement, en fait, on est même si on ne produit pas en France, hein, comme je disais tout à l'heure, on a 2800 employés en France. On a des ingénieurs. On connaît très bien, on travaille avec des équipes expertes. Avec professeur Courbon, on a vraiment travaillé sur le développement du dernier OmniLegend qui, grâce aux équipes de Toulouse, nous permettent aussi d'amener cette innovation auprès des clients. Il a travaillé régulièrement avec nos équipes aux États-Unis et c'est ce qui fait aussi qu'on est implanté depuis longtemps, qui permet ce partenariat. Avec les équipes de Bordel, on travaille surtout sur les gamma caméras et on a besoin d'équipes expertes pour pouvoir amener ces innovations, comme je disais, plus de 15 innovations ces dernières années, pour que justement ils puissent continuer à faire ces innovations aux cliniques grâce à l'innovation technologique. Les deux sont étroitement liés, en fait.
On parle beaucoup de pénurie. C'est la même chose en Belgique, pénurie de professionnels de santé.
Oui, malheureusement, on a également ce
dans
problème.
Dans votre domaine, c'est aussi
dans notre domaine, problème. Surtout au niveau de la prise en charge du patient, donc ce qu'on appelle, nous, les technologues en imagerie, ou en France, les manipulateurs. Mais en soi, on voit l'intérêt ou un engouement pour, à nouveau, rentrer dans ce genre de discipline. Et on attire pas mal de jeunes personnes qui souhaitent rentrer dans cette nouvelle discipline.
Paris à Toulouse, non ?
Oui, on a, de manière générale, on connaît les difficultés de la santé en France, mais il faut reconnaître que dans les secteurs de la médecine qui sont en avance, qui défrichent la recherche académique ou la recherche collaborative sur l'évaluation des bénéfices médicaux rendus, des nouvelles technologies ou des médicaments, il y a objectivement une attractivité pour ces métiers à la fois de soins et de recherche. Et c'est, je pense, le capital qu'il faut absolument préserver dans nos structures, de à la fois d'être capable, pour maintenir entre autres cette attractivité, mais aussi la qualité des soins, de mener de face, en parallèle, ces activités de soins, mais aussi de recherche clinique.
Exactement.
Et heureusement que les patients s'y prêtent avec grande bonne volonté.
Alors, ces produits radioactifs, ce sont des véritables médicaments.
Exactement.
Mais qui ne sont pas comme... Ils sont différents des médicaments chimiques.
Exactement. Donc, souvent, on entend parler de la chimiothérapie radioactive. Non, ce n'est pas de la chimiothérapie radioactive. Et justement, dans le développement de ces nouvelles molécules radioactives, il faut penser peut-être à changer la manière dont on pense les études cliniques. Quand on veut développer un nouveau médicament, il faut penser à développer une étude clinique qui va pouvoir répondre à certaines questions. L'innocuité, que ça ne fasse pas de détriment aux patients, mais également l'efficacité. Et nos médicaments sont un petit peu différents. On ne parle pas en grammes, par exemple. Il faut penser un petit peu différemment. Et on a un projet de recherche, justement, avec GE.
Surtout que le médicament n'est pas stocké. On ne peut pas le stocker.
On ne peut pas le stocker. Ouais. On doit le préparer le jour même. C'est d'ailleurs le domaine, mon domaine, la radiopharmacie, radiochimie. Car ces médicaments vont diminuer au cours du temps. Donc en quelques heures, en quelques jours. Donc on doit pouvoir les préparer. Ouais.
Non, je pense que vous pointez du doigt là une des spécificités qui fait, à mon avis, le charme de notre spécialité, c'est que c'est forcément un travail pluridisciplinaire. C'est des nouveaux traitements, on recherche encore la bonne façon de les utiliser, la bonne façon d'évaluer leur impact. C'est des médicaments qui radicalement ont des exigences de prise en charge très différentes. On peut pas stocker ça dans son tiroir. Hein. Les péremptions sont très courtes. Donc pour une structure comme ça fonctionne, il faut des radiopharmaciens, des médecins, des physiciens, des techniciens et une équipe qui tourne vite, qui va vite, parce que le produit périme vite. Le produit peut être toxique quand c'est un traitement. Donc c'est vraiment ce qui est caractéristique de la médecine nucléaire, c'est cette approche multidisciplinaire dans les établissements.
C'est une approche qui coûte cher ou pas par rapport au traitement classique?
Alors, deux réponses à ça. Je pourrais dire oui et non. Je dirais non parce que ces médicaments, avant d'être commercialisés par les entreprises du médicament que l'on connaît, reposent sur des technologies assez simples et beaucoup de nos confrères, d'ailleurs, rendons hommage à la Belgique qui a été bien avant sur nous. On y a envoyé des malades bien avant. On a envoyé des malades français bien avant chez vous, à la fois pour l'innovation en TEP et en thérapie. C'est des médicaments que l'on peut faire assez facilement, entre guillemets facilement, que les radiopharmaciens savent faire. Voilà. Ce qui transforme le prix, c'est que on passe d'une échelle de production locale, artisanale, à un médicament qui doit respecter tous les standards de qualité, un médicament qui doit être distribué, un médicament qui doit être évalué selon des protocoles stricts. Heureusement, de la recherche clinique, ça transforme le coût. C'est pas la matière première qui est chère. C'est tout le process qui accompagne le développement et la sécurité du produit.
Laurent, ça tombe bien, vous êtes la patronne aussi de la Belgique.
Tout à fait.
Qui est pionnière en la matière. Donc vous disiez que tout n'est pas fabriqué en France, mais enfin vos ingénieurs en France travaillent de concert avec à l'international.
Oui, de toute façon, nous on est une grande équipe et nos équipes françaises, elles sont très très liées avec nos équipes du global, des US et tous les jours sur nos derniers développements. Je pense qu'ils étaient en contact tous les jours, que ce soit avec nos équipes françaises, nos équipes européennes ou nos équipes mondiales. Et pour revenir sur la problématique de l'approvisionnement, j'étais hier avec une députée européenne, je pense que c'est devenu le nerf de la guerre. C'était le nerf de la guerre sur l'équipement, avec tout ce qui est arrivé. C'est le nerf de la guerre aussi sur les molécules, en fait. Et en plus, là, on a un problème de délai, de temps, en fait. Donc,
Est-ce que cette approche intéresse l'industrie pharma?
Alors maintenant, l'industrie pharma s'y intéresse beaucoup. Elle investit énormément d'argent dans ce domaine-là, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vraiment un domaine qui a été plutôt lancé par les académiques, les centres académiques qui voulaient lancer ce genre de médicaments. Depuis qu'ils ont investi de l'argent, bien sûr, il faut que nous aussi, notre domaine, nos centres académiques, puissent suivre dans cette idée qu'on va peut-être attendre un peu plus longtemps pour avoir nos médicaments enregistrés. On va avoir peut-être un peu plus de limitations dans le nombre d'indications où on va pouvoir les utiliser, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Mais je pense que les académiques doivent quand même toujours jouer un jeu dans justement penser ces nouvelles études cliniques. Et d'ailleurs, une des collaborations qu'on a avec GE, c'est de savoir comment au mieux commencer ces phases 1, les études où on teste plutôt l'innocuité du médicament.
Mais Frédéric, finalement, c'est un frein ou c'est un plus que l'industrie pharma s'y intéresse?
Alors encore, je vais vous faire une réponse de non.
C'est une branche qui a beaucoup d'argent.
Je laisserai les industriels de la pharmacie vous répondre. C'est un frein, oui et non. Ça sera un frein si les académiques n'ont plus les moyens de faire les preuves de concept. Parce que la prise de risque... D'abord, la cible, l'innovation, la recherche, elle est d'abord dans la tête des chercheurs et du secteur académique. Il faut continuer à leur donner les moyens de faire les preuves de concept. Parce que je ne sais pas s'ils sont riches, mais je pense que toutes les entreprises ont une petite aversion au risque.
Ils ont les moyens, certaines pharma ont les moyens.
Mais il y a une aversion au risque et un taux d'attrition en matière de recherche et de développement en médecine pour les médicaments qui est très élevé. Donc il faut que les académiques puissent continuer à faire les preuves de concept. Et ensuite, les relations entre les académiques et les industriels, c'est l'évaluation objective du service médical rendu. C'est-à-dire que le savoir-faire que vous avez, que nous avons, c'est l'évaluation en recherche clinique des médicaments, mais aussi de ces dispositifs d'imagerie au départ expérimentaux. Est-ce que réellement ils sont utiles? Est-ce que réellement ils sont performants? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les payer plus cher qu'avant? Quel est le bénéfice rendu? Et donc, notre savoir-faire, il est là. Le savoir-faire des académiques, en dehors des preuves de concept de la recherche translationnelle, c'est, OK, on évalue le bénéfice médical rendu des innovations. Ça, alors, c'est notre rôle.
Vous adaptez, j'imagine, c'est un dispositif médical, hein. Vous adaptez en permanence.
Oui, alors, je pense que c'est un sujet hyper intéressant et on a eu d'ailleurs de nombreuses discussions ces derniers mois parce que, en fait, les études cliniques en pharma et les études cliniques dans le medical device ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas le même temps, elles n'ont pas les mêmes règles, on ne travaille pas de la même façon et c'est un sujet passionnant.
C'est une des
thérapies qui allie les deux. Et intellectuellement, contractuellement, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment deux règles un peu différentes. Mais je voudrais vraiment rendre hommage parce que à nos médecins qui sont là, parce qu'en tout cas tous les jours, ils vont se battre dans cet environnement pour amener justement ces innovations à nos patients. Donc merci.
Il y a un paramètre caché. On a parlé de molécules, on a parlé d'imagerie, et puis il y a un acteur qui intervient, c'est l'intelligence artificielle.
En plus. Ouais.
Ce que fait l'intelligence artificielle dans l'imagerie, ce qu'elle va produire dans notre processus de sélection des patients, cette nouvelle taxonomie guidée par ces approches qui sont pour nous un peu des boîtes noires, la façon de les évaluer, d'avoir une idée objective de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est un des nouveaux défis du secteur académique.
Ouais. Je n'osais pas vous poser la question sur l'intelligence artificielle. Je pensais qu'il allait me répondre oui ou non, oui et non. Vous êtes sûr que vous êtes de Toulouse, vous n'êtes pas de Bretagne.
Je vous répondrai oui et non également.
D'accord. Vos appareils donc évoluent. Comment voyez-vous l'avenir de cette diagnostic?
Alors nous la façon dont on voit l'avenir en tant qu'industriel, c'est qu'on doit continuer à investir parce que actuellement on traite, comme on l'a dit, un certain type de patients et c'est comment on va pouvoir utiliser cette thérapie pour d'autres patients qui peuvent en avoir besoin. Donc c'est vraiment d'accompagner l'évolution. Tant, j'allais dire, sur l'équipement que sur les molécules en ce qui nous concerne en termes de diagnostic et pour les pharma en termes de thérapie.
Mais on peut imaginer cette diagnostic dans d'autres pays que les pays occidentaux, en Afrique, en Asie.
Alors, j'allais dire oui, parce que je pense qu'on est là, nous, en tant qu'industriels, pour servir tous les patients du monde. En tout cas, moi, je suis là pour ça.
Comment vous voyez donc, Zénal, l'avenir justement de la diagnostic?
Alors, de nouveaux produits et une accessibilité au plus grand nombre. Car actuellement, justement, on n'est pas seulement limité en termes d'indication, donc quel type de maladie on peut traiter, mais aussi l'accessibilité à ces traitements est assez limitée. On ne peut pas faire ce genre d'approche un peu partout pour l'instant. J'espère que ça va être plus démocratisé dans le futur. Mais également, d'avoir des nouvelles molécules qui pourraient cibler d'autres types de cancers, d'autres types de maladies. Car en théorie, on peut cibler n'importe quelle maladie si on trouve la bonne cible et le bon cheval pour pouvoir nous ramener justement cette thérapie jusqu'aux cellules.
Frédéric Courbon.
Oui, je crois que l'avenir est excitant. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on se bat. On gagne un mois par-ci, deux mois par-là. Et donc, c'est un avenir actif, c'est un avenir proactif, c'est un avenir de combat, de recherche multipartenariale. La soutenabilité des dépenses est un sujet. L'accessibilité des personnes défavorisées, voire des pays émergents, est un sujet. On collabore avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur des programmes qui vont permettre à la médecine nucléaire de se développer dans d'autres pays, parce que ça n'a pas de sens de penser uniquement à l'échelle de nos pays dits riches. Je pense que sur le plan de la recherche, sur le plan de l'offre de soins, de la transformation de nos métiers, c'est passionnant.
Ça reste pour l'instant une thérapeutique de deuxième intention ou
alors
après un traitement classique en oncologie ou pas?
Ça dépend, c'est intéressant. Par exemple, pour les tumeurs endocrines, c'est devenu, pour un certain type de tumeurs endocrines, ce nouveau traitement est devenu la première ligne de traitement en situation métastatique ou réfractaire. Et concernant les cancers de la prostate, on est passé de quelque chose qui était en fin de ligne, et on voit très bien l'évolution de la recherche et de la recherche clinique, un positionnement qui avance dans les lignes. Voilà. Donc, certes, on reste en situation métastatique, c'est pas une panacée, hein. On est quand même confronté à une maladie dont le pronostic est sévère, mais en montant, en avançant le traitement, on améliore la qualité de vie, on prolonge la survie globale, on diminue les douleurs, on diminue l'apparition d'événements douloureux ou d'événements radiologiques. C'est un combat, on gagne mois après mois.
J'aimerais quand même rajouter que ce genre de traitement a très peu d'effets secondaires ou des effets secondaires mineurs ou réversibles. Et pour ce qui est du coût, comparé aux autres traitements en oncologie, les traitements ciblés en oncologie, on est similaire ou même inférieure, souvent, si on regarde la durée totale du traitement.
Mais c'est sous forme de séance itérative, sous forme de...
Voilà, ce qui règle le problème de la compliance, parce qu'on sait bien qu'une des limites des traitements en cancérologie, c'est la tolérance que peuvent avoir les patients à ces traitements médicamenteux, et donc souvent des échappements. Là, c'est des traitements intraveineux, c'est un traitement qui se fait en ambulatoire.
Mais c'est un one-shot ou alors c'est plusieurs séances?
5 ou 6 shots, comme vous dites.
D'accord, 5 ou 6 shots.
Toutes les 8 à 6 semaines.
Bon, très bien, merci.
Je peux rajouter quelque chose?
Allez-y,
parce que nous,
vous avez 10 secondes.
10 secondes, nous on est une société indépendante depuis le 4 janvier avec une mission qui est créer un monde où la santé n'a pas de limite, et cette collaboration, elle le démontre.
Et voilà, Fabien. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup,
merci à tous.
Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.